Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, nous regardons les œuvres d'une très grande artiste. Une artiste de 90 ans, une artiste portugaise qui vit à Londres et a commencé son œuvre il y a plus de 60 ans. L'exposition que Paula Rego, c'est le nom de cette grande peintre, a au musée de l'Orangerie est passionnante en ce qu'elle nous confronte aux ressorts apparemment les plus sombres de notre humanité. Cette artiste qui ose s'écrier « faire de l'art est dégoûtant » développe avec une sincérité époustouflante la réalité de son expérience. Elle organise devant nous un théâtre de peinture superbe dont les acteurs, les personnages parfois animalisés, dévoilent les secrets de leur motivation, ce qu'on peut appeler la comédie humaine. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Cécile Debray, la commissaire de l'exposition qui est aussi la directrice du musée de l'Orangerie. Vous la connaissez, elle a réalisé elle, au Centre Pompidou, comme co-commissaire, mais aussi l'exposition Marcel Duchamp, nous avons parlé ici. Et elle est en train de préparer une grande exposition sur la préhistoire et l'art contemporain au Centre Pompidou. Et je reçois également Marie-Laure Bernadac. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Jean.
Vous allez bien ?
Très bien.
Vous êtes conservateur général honoraire, vous avez travaillé au musée Picasso, nous vous connaissons bien. Vous êtes en train de préparer la biographie de Louise Bourgeois. Et donc, qui est une autre femme qui n'est pas sans point commun, d'ailleurs, avec Paula Rego, dont nous parlons aujourd'hui, et ses contes cruels. Je vais commencer, Marie-Laure, si vous le permettez, par vous poser une question. Quand Paula Rego dit « faire de l'art est dégoûtant », qu'est-ce qu'elle veut dire ?
Je trouve ça une très belle phrase, je ne l'avais pas remarquée, donc merci d'entamer avec ce dégoûtant. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, mais j'aimerais bien savoir ce que Cécile, qui la connaît bien...
Ça, c'est habile,
qui...
ça. C'est...
Oui, et qui nous fait le plaisir, et grâce à elle, qu'on voit cette exposition. Je crois que c'est assez anglais, j'allais dire, comme phrase. Je la vois bien dans la bouche de Bacon, je la vois bien dans la bouche de Freud, dans la bouche de Hockney. Il y a un côté laid, vilain, dégoûtant, vulgaire, qu'aiment les Anglais. Vulgaire mêlée d'aristocratie, hein, sans doute. Je pense à ça parce que David Silvester, grand critique anglais avec lequel j'ai travaillé sur le dernier Picasso, utilisait souvent ce côté, il faut être vulgaire, peindre avec des gros mots, que pour lui la peinture, chez le dernier Picasso, mais aussi chez Bacon, chez certains peintres anglais. Bon, ça c'est pour le côté formel, le côté
dégoûtant. Vous savez que Cécile Debray n'est pas du tout d'accord avec vous, parce que quand je la vois comme ça...
C'est l'aspect formel peut-être, mais peut-être que ce dégoûtant veut dire autre chose. Il y a un dégoûtant donc de la laideur, hein, du mal peint.
Tout à fait. Cécile.
C'est une peinture qui repousse, mais il y a peut-être un dégoûtant intérieur dont nous parlerons
c'est peut-être
après.
Ça, c'est peut-être ça, hein, Cécile Debray.
Ah non, je trouve ça très très juste. C'est vraiment la peinture comme forme d'obscénité. C'est vraiment... Et c'est autant la matière que le contenu.
Peut-être que nos auditeurs n'acceptent pas cette idée, qui est pourtant, je crois, juste. C'est-à-dire que la peinture nous permet de toucher à des zones de l'être extraordinairement noires et sordides, parfois. Est-ce que c'est le cas de Paula Rego, Cécile Debray ?
Oui, c'est vraiment l'objet de sa peinture, c'est tellement vaste, mais c'est tellement lié à une approche presque psychanalytique de son enfance, de l'enfance en général, et également l'essence de la peinture, c'est-à-dire cette peinture qui est très narrative, très figurative chez elle et chez beaucoup d'Anglais. Et là, pour aller fouiller effectivement l'aspect... presque obscène, oui, de ce qui est figuré tant par le corps, mais par aussi ce qu'elle raconte, puisqu'en fait, sa peinture, elle raconte beaucoup d'histoires, puisqu'elle dit souvent qu'elle aime partir d'histoires, d'où l'axe de cette présentation à Paris autour des contes et autour
c'est
de l'enfance.
C'est le titre d'exposition, hein, Paola Rego, Contes cruels.
Les contes cruels, oui.
Très littéraire néanmoins.
Oui, parce qu'elle elle raconte des histoires en travaillant en même temps ces histoires dans son atelier. Donc elle est presque une sorte de scénographe. Donc elle met en scène ces histoires qui peuvent être issues de la littérature enfantine. Que ce soit que ça peut être Peter Pan, ça peut être Jeanne Eyre, ou un peu tous ces romans qui parlent de l'enfance, et elle les met en scène dans son atelier à travers des marionnettes, des effigies qu'elle construit elle-même, et donc elle est toujours dans une sorte de réalisme très à la fois très précis, puisqu'elle observe le motif dans son atelier, mais elle construit un réel totalement fantasmatique, puisque ces créatures sont en fait des créatures de papier mâché, assez tordues, assez déglinguées, qu'elle expose ou qu'elle dépeint en tout cas sur ses toiles.
Alors Marie-Laure Bernalac, vous nous parliez des artistes auxquels elle vous a fait penser, vous parliez de, ou en tout cas peut-être sa touche ou ce réalisme comme ça que vous avez évoqué quand vous parliez de Freud, de Bacon, peut-être on pense à l'école de Londres, alors ce qu'on appelle
la Slade School.
La Slade School, oui. Où elle a été étudiante.
Et là, je pense qu'elle a été inspirée par ce type de peinture très figurative, très charnelle, avec des corps assez
laids. C'est une appellation des années 60, ça, la Slade School. Hein, donc c'est Kossoff, Auerbach,
Vous en connaissez beaucoup, cette peinture épaisse, matière, etc.
Mais il y a de la boue dans cette peinture-là.
Il y a peu de boue et c'est un côté repoussant. Il ne faut pas se le cacher. Je pense que c'est aussi peut-être une des raisons qui fait que sa notoriété, sa reconnaissance, surtout en France, qui n'aime pas les choses laides, les choses obscènes, a eu beaucoup de mal. Mais c'est important aussi de replonger ça dans les inspirations littéraires du 19e. Parce que pour moi, c'est une sorte de Marie Shelley, en fait. C'est qu'elle reconstruit des Frankenstein, elle reconstruit des personnages, elle réinterprète avec sa propre histoire, comme le disait Cécile, tous les contes fantastiques et tous les grands romans de la littérature du 19e. C'est vraiment complètement du côté du 19e siècle. Alors elle dit une phrase très belle, que pour elle, le Portugal, c'est le 19e siècle. Alors là, on a parlé beaucoup de l'Angleterre, mais il ne faut pas oublier qu'elle est un mélange, c'est pas une phrase de moi, mais je l'adore parce qu'elle résume tout Paola Rego, un mélange de noirceur ibérique et de humour anglais. C'est une phrase d'un critique.
Oui, parce qu'il y a aussi de l'humour dans son travail.
Il y a beaucoup d'humour.
Un humour très noir, mais un humour.
Très
alors,
noir.
Cécile Debray, rappelez-nous comment ça commence, l'existence artistique de Paola Rego. Elle commence au Portugal,
Elle le dit elle-même, c'est qu'elle a toujours dessiné toute sa vie. Donc enfant, elle dessinait, elle n'aimait pas l'école, d'après ses propos. Elle va être envoyée par son père en Angleterre. Pour dessiner, puisque pour apprendre plutôt l'art à la Slade School, puisque au Portugal ça paraît difficile pour une jeune fille de devenir artiste. Et elle commence très tôt, puisque la reconnaissance de son œuvre arrive très très tardivement. Elle commence très tôt par des œuvres qui sont assez hybrides, avec des formes de collage des compositions qui sont très éclatées, très très en surface, et qui évoquent justement un artiste qu'elle aime bien convoquer, qui est donc Dubuffet.
Vous me direz pourquoi tout à l'heure, parce que je retrouve pas Dubuffet quand je vois les tableaux que vous avez exposés.
Ah, pas ceux qui sont montrés au musée de l'Orangerie, mais
parce qu'il n'y a pas ceux du début justement.
Donc qui sont ceux du début, ou enfin ceux des années 60.
Ceux des années 50-60, où elle peignait sous le régime de Salazar.
Oui, en faisant des allers-retours entre Londres et le Portugal.
Et c'est un travail déjà engagé politiquement, mais presque abstrait, en fait, une sorte de...
C'est un travail sale. Effectivement, là où elle rejoint Dubuffet, c'est que c'est des petites figurines avec un dessin presque caricatural, très graphique, très stylisé. Mais elle découpe ces petites formes qu'elle appose ensuite sur une toile. Donc il y a une sorte d'effet de surface presque abstraite, matiériste, mais qui passe paradoxalement par le découpage du papier et de ses formes très, très planes. C'est assez beau d'ailleurs, c'est aussi une œuvre qu'on devrait découvrir. Moi, l'espace de l'Orangerie est un petit lieu lieu.
Donc, d'autres périodes, en fait.
Voilà, hein. Je montre la Paola Rego qui commence à être vue, perçue comme une actrice de l'école de Londres et qui a été reconnue à partir de la fin des années 80, quand elle commence une figuration très, très puissante, très, très monumentale.
Vous avez raison de dire ça, parce que c'est assez curieux. On a l'impression que elle fait ce travail qui est assez proche de collage, etc. Et puis on a l'impression que au milieu des années 80, il y a une transformation très très forte de son œuvre qui devient la Paola Rego, qui aujourd'hui en fait un des artistes majeurs de la scène européenne.
Oui.
Marie-Laure Bernadat, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ce plan biographique, bon, d'abord, c'est les années 80, hein, aussi. Je pense qu'il y a aussi un intérêt pour une forme de peinture subjective, figurative.
Vous voulez dire, c'est une période dans laquelle on est revenu à une peinture figurative,
avec des récits, des histoires.
On l'a accepté à
quelque
nouveau.
Chose de très personnel et très subjectif. Et comme elle raconte quand même toujours aussi sa propre histoire, ses propres émotions, je pense qu'on y était plus sensible. Et puis bon, il y a la maladie de son mari aussi, je pense, qui a joué beaucoup. Son
qui
mari
était un
peintre,
artiste.
Qui était un artiste aussi, dont elle s'est beaucoup occupée. Donc dans les années 80, c'est un tournant, hein, parce que 86, il est de plus en plus malade, je ne sais plus exactement.
Je crois qu'il a dû mourir en 87 ou 88.
Voilà, c'est ça,
c'est les deux dernières années.
Évidemment que c'est très significatif.
Il avait une sclérose en plaques et c'était très dur.
Que Paola Rego commence à exister comme artiste une fois que son mari peintre a disparu.
C'est la féministe qui parle.
Non, ce n'est pas la féministe, c'est la...
C'est la réalité, j'allais dire la même chose pour Louise Bourgeois. Louise Bourgeois a commencé à être vraiment connue quand son mari est mort.
Et voilà. Vous diriez la même chose de Sonia Delaunay?
C'est pas pareil, parce qu'ils ont travaillé ensemble, c'est des couples vraiment égaux d'artistes. Donc je pense que Sonia était largement...
C'est toujours très compliqué. Hein.
Dans ces deux cas-là de reconnaissance tardive, je pense que ça a joué. Alors en plus, il se trouve qu'elles sont toutes les deux mères, qu'elles ont des enfants. Donc aussi, ça retarde un peu la notoriété, pas la notoriété, mais la visibilité sur la scène artistique.
Oui, je trouve ça intéressant, moi, le lien avec Louise Bourgeois. Alors, peut-être que je force le trait, mais je trouve que il y a une telle puissance d'un univers qui leur est propre, chacune. Et quand Paola Rego s'exprime en peinture, elle dit elle-même, de toute façon, elle ne peut pas faire autrement ni autre chose, et c'est d'une telle singularité. Je trouve aussi, enfin, mais ça c'est Marie-Laure qui le dirait, mais je trouve aussi qu'il y a quelque chose de presque existentiel pour sauver sa peau, quoi, hein, quand elle parle un peu de son existence et de ce que représente l'acte créateur, il y a un peu de ça, et j'ai l'impression que chez Louise Bourgeois il y a aussi cette importance de l'art.
Alors, je vous propose d'écouter ce que dit Paola Rego elle-même. C'était pour un entretien dans Le Guardian en 2015 avec Kate Calloway.
Il n'est pas exact de dire que la peur est ma muse. Mais je connais la peur. Ma mère disait que j'avais peur de tout, même des mouches. En fait, j'étais une fille unique, j'étais solitaire et j'avais peur du noir. Je ne suis pas très courageuse dans la vie, mais je n'ai peur de rien dans ma peinture. Petite, j'avais un professeur... Donna Violetta, qui était particulièrement méchante, critique et autoritaire. Une fois, alors que j'avais 8 ans, elle a mis une saucière devant moi et me dit « Dessine ça ». Elle a crié, en voyant mon dessin, « Tu veux être une artiste et tu ne peux même pas dessiner une saucière et une tasse ». Depuis, elle apparaît dans mon travail de façon grotesque chaque fois que je veux décrire une femme vraiment mauvaise. Peindre est une façon de se venger, d'exercer une violence douce ou gentille. Paola Rego, 2015.
Voilà, amène ailleurs. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons de la grande artiste portugaise Paola Rego qui a en ce moment une exposition importante, Conte cruel, au musée de l'Orangerie à Paris, et elle dit « Peindre est une façon de se venger, d'exercer une violence douce ou gentille ». Tout à l'heure, elle disait « Peindre, c'est dégoûtant ». C'est qu'elle cherche vraiment quelque chose de très extrême en lettres, absolument extrême. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que c'est toujours son enfance qu'elle essaye de réorganiser. J'ai une question à vous poser, Cécile Debray, puisque vous êtes la commissaire d'exposition, en plus d'être la directrice de l'Orangerie, et que vous avez la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez visité son atelier ?
Oui, je l'ai visité plusieurs fois.
C'est où ?
Donc c'est dans le quartier de Camden, dans le nord de Londres, qui est un quartier encore populaire.
Assez populaire, mais devenu touristique à cause du marché aux puces.
Et voilà. Et elle habite dans un ancien atelier artisanal. Voilà,
c'est particulier.
Qui est très, très particulier. C'est-à-dire que quand on entre dans cet atelier, on est environné de créatures, en fait, de ces créatures qu'elle façonne, qu'elle sculpte, d'animaux empaillés, une collection de costumes et qui lui servent à construire les scènes de ses tableaux. Donc c'est un lieu très, très envoûtant. Qui visiblement n'a pas bougé depuis 30 ans, quoi.
Vous trouvez pas que c'est plutôt un théâtre ?
Alors c'est un théâtre dans le sens où la peinture est une représentation et effectivement elle fait des petites scénettes, mais c'est pas tout à fait un théâtre dans le sens où il y a des objets, enfin ces petites scénettes sont construites juste le temps d'un tableau, puis après elles se dénouent pour aller vers une sorte de bazar comme ça où la poussière s'accumule et ensuite elle va piocher à nouveau une poupée pour en faire un tableau. C'est plus une
chambre d'enfant.
Oui, Marie-Laure Bernadac.
Une chambre d'enfant.
Oui, parce qu'il y a des poupées, il y a des masques,
il y a des
jouets.
Elle compose des scénettes. Ce qui est assez théâtral, c'est sa peinture, parce qu'il y a toujours des rideaux souvent dans la peinture. Il y a beaucoup de rideaux, beaucoup de voyeurs, beaucoup de scènes superposées, hein, soit en hauteur, soit en profondeur. Donc c'est vrai que sa peinture est une forme de théâtre de la cruauté, hein, ça, je crois que c'est lui qui l'avait dit. Ouais. Et alors pour revenir à l'enfance, que vous avez évoqué l'enfance, c'est vrai que s'il y a autant de noirceur, il y a deux facteurs à mon avis, c'est l'enfance et l'exil. Faut pas oublier quand même que... Elle est une Portugaise exilée à Londres, avec plaisir.
À 18 ans, non, par là, oui, à peu près.
Elle a fait des allers-retours, mais bon, oui, il y a quand même tous les souvenirs de Estoril, hein, où elle était, de la campagne, du Portugal de Salazar, qui est quand même spécialement sombre et déprimant.
La dictature, oui. Elle a fait des tableaux où on le vomit, la dictature.
Alors, elle dit une phrase aussi extraordinaire, parce que tout le monde lui a dit, Salazar, contre le patriarcat, contre l'autorité, contre la noirceur de la dictature. Et ce qui est vrai, qu'il y a aussi ça dans sa peinture. Mais elle dit, à une époque, j'étais pas tellement intéressée par Salazar, c'est surtout par ma mère que j'étais réprimée. Donc là aussi, on touche quelque chose de très profond,
entre la vilaine
tante. Il y a beaucoup de souvenirs d'enfance un peu traumatisantes dont elle parle et qui reviennent dans sa peinture. Mais là encore, c'est un peu comme Mousse-Bourgeois, parce que c'est aussi des histoires réinventées. C'est qu'à partir d'un souvenir d'enfance, elle reconstitue une forme de légende, de se réapproprier des souvenirs traumatisants. Et avec ça, elle construit d'autres récits. Hein.
Alors, c'est vrai qu'elle dit très clairement qu'elle a suivi une psychanalyse avec un psychanalyste jungien.
On sent le caractère jungien dans son travail.
Voilà, il y a vraiment la dimension du mythe qui est là en permanence, où elle va un peu revisiter des grandes histoires dans lesquelles elle mêle des éléments biographiques et elle construit ça dans des triptyques de plus en plus ambitieux. Elle essaie effectivement d'approfondir le caractère onirique d'une peinture où elle va démultiplier les représentations de peintres peignants. C'est vraiment le thème de la représentation et la réflexion sur la peinture. Alors elle dit une chose qui est très émouvante, c'est que elle estime qu'elle est dans sa vie très très démunie en fait, émotionnellement, elle est toujours écrasée en fait par le réel, et que c'est uniquement dans l'espace de la peinture ou l'espace de l'art qu'elle prend sa revanche en fait, qu'elle domine ce qu'elle fait.
Alors en général, il y a des tableaux dans lesquels l'univers autour d'elle est, pas symboliquement, mais réellement très noir. Je pense en particulier à ce tableau qui est sensationnel, j'aimerais bien que vous nous le décriviez, qui est cette danse de 1988 qu'on voit au début de l'exposition. Dites-nous.
Oui, c'est un très grand tableau qui est aujourd'hui à la Tate, qui est une des toiles les plus populaires hein, de leur collection, où elle dresse une scène nocturne de danse, une sorte de danse de salon hein, sur une plage au clair de lune. Et l'on voit donc des couples et une sorte de ronde qui s'esquisse entre des jeunes filles et une jeune femme qui est seule, les bras ballants. C'est une toile qu'elle achève de peindre juste après la disparition de son mari.
Donc c'est pour ça qu'elle, cette femme est seule, vous pensez ?
Alors oui, il y a le symbole effectivement de la séparation, mais le couple qui est au centre de la toile, en fait, c'est son mari, mais qui danse avec une autre. Donc c'est toujours plus compliqué que ce qu'on aimerait y lire, une sorte de simple hommage aux disparus. Il y a aussi une forme de discrète vengeance subtile hein, vis-à-vis d'un mari qui l'a beaucoup trompé, qui l'a fait souffrir, et comment les choses se sont retournées une fois que lui est tombé malade, où il était totalement à sa merci. Et donc tous les tableaux de cette période-là analysent cette ambivalence entre l'acte de soigner quelqu'un et qui ce soin et oscille entre le geste affectueux et protecteur et l'agressivité ou la menace.
Il y a un moment qui est très étrange, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie-Laure Bernadac, c'est à peu près les mêmes années, 1988 à peu près, où elle représente des femmes dans des positions animalisées.
Des femmes chiens.
Des femmes chiens, par exemple. Exactement.
Je pense que c'est ce qu'il y a de plus impressionnant, je dirais, d'une certaine façon.
Extraordinaire. Qu'on a dans certaines Marie-Madeleine de Ribera, il y a très longtemps.
On sent bien qu'elle est très influencée par la peinture espagnole. On voit ses sources, hein, parce que les sources d'histoire de l'art sont multiples. Mais c'est vrai que ce thème de la femme chien est absolument fascinant. Moi, j'ai un peu parlé de ça parce que.
Et surtout de la part d'une femme très féministe, très engagée, en tout cas.
Oui, mais ça va ensemble, parce que le chien peut attaquer, peut mordre, peut se défendre. Il y a toujours une ambivalence chez elle, c'est ça qui est intéressant, c'est jamais une interprétation unilatérale. Parce que, par exemple, les petites filles avec des chiens, en effet, comme dit Cécile, à la fois, elle le cajole, elle lui donne à manger, elle lui met une serviette, elle le met dans une petite maison, enfin, elle s'occupe, et puis après, elle veut le tuer, le chien, je veux dire. Elle n'arrête pas de... Il y a une vraie violence, c'est un peu comme chez Louise Bourgeois, ce sont des femmes extrêmement violentes, où il y a une agressivité qui se met dans la peinture, un exorcisme qui se fait dans l'art, mais chez elle, il y a une grande violence. Et cette femme chien, ce qui est drôle, c'est qu'elle fait poser donc l'assistante,
l'assistante médicale de son mari.
Portugaise.
Oui.
Donc c'était qui est devenu
son modèle, en fait.
Qui est devenu son modèle.
Après la mort de son mari.
Et il y a aussi tout ce désir de devenir animal chez la femme. Il y a énormément d'animaux. On a beaucoup d'artistes femmes aussi qui ont fait jouer sur cette métamorphose et sur cette sauvagerie un petit peu qu'on peut retrouver dans la femme. Et la femme chien à la fois se défend, peut attaquer, mais peut être aussi le chien domestique. Mais là, c'est toute la violence contenue de l'animal qui est dans la femme. Et ça, je trouve ça très fort comme image.
Écoutons ce qu'elle dit, c'est pas exactement à ce propos-là, mais ça recroise notre affaire.
Je vole des choses, je vole les histoires, je vole les animaux. Mais c'est plus que juste du braconnage. Je me sens plus comme le bouffon, comme les bonnes dans la pièce de Genet qui s'habillent avec les vêtements de leur maîtresse quand celle-ci est sortie. Comme les petites filles qui essaient le maquillage et les fourrures de leur mère. Autrefois, je me sentais plus à l'aise avec l'art populaire qu'avec le grand art. Mes sujets favoris sont les jeux de pouvoir et les hiérarchies. Je veux toujours tout changer, chambouler l'ordre établi, remplacer les héroïnes et les idiots. Paola Rego, 2015.
Thank you. Et oui, vous écoutez l'art et la matière, vous êtes sur France Culture, et nous parlons effectivement de Paola Rego, cette très grande artiste portugaise qui vit à Londres depuis longtemps et qui fait ses tableaux tellement noirs et qui s'écrit « La peinture est dégoûtante ». Et là, on vient de l'entendre dire « Je vole mes sujets, je travaille sur la hiérarchie, je chamboule tout ». Cécile Debray, vous qui êtes la commissaire de l'exposition, vous avez ressenti, quand vous l'avez rencontrée, ce désir de violence ou ce sentiment traumatisé, ou c'est quelqu'un de joyeux ? Comment est-ce que vous l'avez ressenti ? Il y a 10 ans que vous la fréquentez, non ?
Oui, ça fait longtemps que je viens la voir à Londres régulièrement. C'est quelqu'un d'extrêmement aimable, d'extrêmement rieur, gentil. Enfin, elle a une sorte de, elle a même des poses de petite fille. Alors, est-ce que c'est
vu ce qu'elle pense de la perversité des petites filles, c'est intéressant.
Alors, non, mais c'est vraiment la. Il y a une Paola Rego dans sa peinture, dans son atelier, et il y a la Paola Rego sociale qui et là on est vraiment dans deux domaines un peu séparés. Mais quand elle dit qu'elle veut inverser l'ordre établi, ou en tout cas ne jamais être là où on l'attend, c'est très vrai quand elle représente par exemple des romans très populaires comme par exemple Jane Eyre, qui est donc l'héroïne romantique par excellence auquel toutes les féministes se sont identifiées.
C'est le roman pour nos auditeurs de Charlotte Bronte. Hein, c'est un roman de 1847, un succès gigantesque. C'est Charlotte Bronte étant l'une des sœurs, je peux dire Bronte, hein, puisque c'est curieux, c'est que quand on pense à Jane Eyre, on peut pas ne pas penser aussi au haut de Hurlevent qui en symétrie inspirait Balthus. Étrange, hein.
Oui, oui.
Et parce que c'est alors, des mondes assez voisins, Balthus.
Voilà, oui. Ouais. Alors quand vous lui dites Balthus, elle Qu'est-ce vous dit qu'elle préfère Klossowski, son frère.
Voilà. Klossowski,
ce n'est pas idiot comme réponse.
Oui, c'est votre cas aussi, Marie-Laure Bernadac. Nous, on vient de faire une émission sur Balthus à cause de l'exposition qui est à Bâle en ce moment. Ouais. Et je dois dire que les Balthus des années 30 à 45, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. C'est quand même une perversion qui n'est pas si lointaine.
Oui, sauf que c'est celle
d'un
homme.
C'est pas la même chose pour moi.
Hein. C'est celle d'un homme et, ouais. Et je pense que quand Paola Rego regarde les petites filles, elle ne les regarde pas comme Balthus.
Pas du tout de la même façon. Les filles sont beaucoup plus combattrices, indépendantes, adultes. En plus, elles sont à la fois petites filles et adultes. Voilà. Il y a quelque chose de très complexe.
C'est vrai, Marie-Laure Bernadac, ses enfants sont des adultes petits.
Oui, des adultes petits. Hein, ouais. Donc c'est... Alors, en général, elle fait un peu tous les âges, parce que c'est à la fois la petite fille, la mère, la femme, l'amante, la grand-mère, la vieille tante. Il y a une espèce de tous les registres de la féminité qui se conjuguent. Donc, c'est pas du tout le regard de Balthus sur les petites filles. Hein. Je pense que là, on
n'est
pas...
Non, il y a une sorte de...
Oui, il y a une perversion quand même, mais c'est pas du tout la même.
Mais c'est la perversion du côté de la petite fille, qui est plus intéressant et pas du côté du regardeur.
C'est un érotisme qui est peut-être beaucoup moins sophistiqué, mais qui est beaucoup plus animalisé, enfin, qui est plus pulsionnel, non ?
Alors, est-ce qu'il faut parler d'érotisme ? Elle montre plutôt une sorte de l'organique, quoi, du corps, qui peut-être même être anti-érotique dans ses toiles, mais elle parle quand même de sexualité, elle parle de...
très abusive, oui.
Voilà, mais elle reste très pudique, ouais. C'est-à-dire que vous verrez très peu de nus quand même hein, dans ses tableaux.
Mais d'ailleurs, les corps ne sont pas désirables, hein, c'est des corps durs,
habillés.
Mais il y a des relations agressives entre les corps, et on a l'impression que les uns sont les prédateurs des autres. En fait. Oui,
on voit beaucoup en effet d'animaux, de loups, d'animaux qui sont très menaçants, hein, qui menacent la petite fille, qui lui court après. Mais pour moi, cette enfance, c'est pour ça que j'avais appelé mon texte présumée innocente. C'est que on sait très bien que l'enfance n'est pas innocente et que c'est des pervers polymorphes et que bon, on va pas.
Quand je pense à toutes les mamans qui nous écoutent, qui doivent être consternées, je vous propose d'écouter quelques propos que Paola Rego a donné à son fils Nick Willing.
Quand je réalise un tableau, que je bâtis une histoire et que soudain je ne sais pas comment la poursuivre, je retourne pour pouvoir continuer à un endroit que j'ai connu enfant, mon enfance. Quand je fais quelque chose qui me paraît réussi, une peinture que j'aime, je suis tellement soulagée, tellement revivifiée, le mal est passé dans le tableau. Si on rencontre quelqu'un qui comprend vraiment mon travail, alors cette personne, de ce fait, cette personne me comprend vraiment. Tout est érotique, parce que travailler est érotique. Dessiner est une activité érotique, vraiment.
Sur France Culture, nous parlons de Paola Rigaud, mais vous le savez déjà, et je suis avec Cécile Debray et Marie-Laure Bernadac. Cécile Debray, vous êtes d'accord? Tout ça est érotique?
Oui, oui, oui. C'est... Quand elle parle d'érotisme, selon moi, et on a parlé de cette série sur les femmes chiens, c'est au moment où elle commence à travailler au pastel. Et en fait, quand elle travaille au pastel, elle va tout d'un coup, et elle l'explique très bien, elle va commencer à peindre avec les mains. Et donc cette technique, en fait, est extrêmement... c'est du modelage dans le pigment, hein, dans le pigment pur. Donc effectivement, quand on la voit travailler, elle a ces immenses tables avec ses pastels devant elle. Et elle sculpte son dessin avec les mains. Et quand elle fait cela, en fait, elle reprend les mots de Degas, qui lorsqu'il peignait, ou plutôt qui
peignait au
pastel, ses danseuses disaient la même chose, que c'était pour lui un toucher, une manière de travailler dans le volume. Et on avait reproché justement à Degas de peindre ses femmes comme des animaux. Et on retrouve cette sorte de vision du corps, un corps qui est un corps animal, qui est extrêmement organique.
D'ailleurs, la petite danseuse de Degas est un animal. Enfin,
exactement, et même les pastels qu'on montre dans l'exposition, puisqu'on montre des danseuses de Degas, pastels face à celles de Paola Rigaud, et on est frappé par la... C'est-à-dire que c'est absolument plus un Quentin de la Tour, c'est-à-dire que c'est un pastel qui est violent, c'est un pastel qui est très visible, les traces de doigts, la touche, est très visible. Et donc il y a cette... J'aime bien... Enfin, je trouve que le travail de Paola Rigaud se situe vraiment entre cette sorte d'approche du modèle par un réalisme très, très véridique, très cru, qui est vraiment la marque de l'école de Londres, et ce sorte de baroque hispanique qui est celle de beaucoup d'artistes ou d'écrivains portugais. Donc il y a ce mélange chez elle qui pour moi est une forme de sensualité, en tout cas extrêmement particulière.
Peut-être savez-vous nous répondre, Marie-Laure Bernadac, deux choses. D'abord, on parle de ce pastel, c'est un pastel qui techniquement est en même temps d'une virtuosité incroyable, hein, parce que c'est rare d'avoir des pastels qui sont réalisés avec une telle brutalité, mais aussi avec une telle perfection dans la représentation. Et l'autre chose que je voudrais vous demander, c'est Paola Rigaud est-elle une artiste très isolée, ou est-ce qu'elle parle avec les autres? Est-ce qu'elle elle a des camarade peintre? Est-ce qu'elle est dans un milieu? Est-ce qu'elle est le fruit d'un contexte? Deux choses. Parlons du pastel d'abord.
Alors, c'est vrai qu'on est impressionné quand on voit, parce que moi j'ai rarement vu de près tous ces tableaux et ces pastels. Et c'est très impressionnant de voir l'exposition, parce qu'on est frappé par l'iconographie, par les images, mais on a un véritable choc physique quand on voit la matière des tableaux et la façon dont elle travaille. C'est extrêmement doué. Elle est d'un talent extraordinaire.
Ses compositions sont baroques.
Ses compositions sont extraordinaires. Donc ça, c'est important pour que les gens aillent voir les œuvres en vrai. Et par contre, moi, je l'ai vu qu'une fois, le jour du vernissage. J'ai trouvé une personne absolument charmante, en effet, et fragile, fragile et aimable, très fragile, malgré toute la violence qu'elle exprime ailleurs dans la peinture. Donc je ne sais pas, je pense qu'elle était très longtemps isolée, hein, puisque...
Alors, elle était isolée et peu isolée, puisqu'elle était quand même à la Slade School, donc elle a quand même, elle a croisé Hockney, elle est assez amie avec Auerbach, donc elle...
Elle a eu peu de grandes expositions.
Elle en a eu dans les années 80, puisqu'elle a quand même été... elle a été défendue par Saatchi, elle a été accueillie au British Museum.
Elle a été sélectionnée pour le Turner Prize, quand même. Voilà. Ce qui est étonnant National pour une Gallery. Vieille dame, déjà. Oh, hein, voilà. C'était très
quand
inhabituel.
Même, les années 80,
elle a un musée
personnel.
Elle a un musée personnel.
C'est l'artiste national pour Portugal.
Portugaise, un magnifique musée Estoril qu'il faut aller voir. Super.
Voilà. Et elle, alors, ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'elle est peut-être plus attirée par les écrivains ou les dramaturges que par les peintres. En fait, ses amis peintres sont des amis disparus, parce que elle regarde beaucoup Goya, évidemment. Elle a une très grande culture artistique, mais très grande culture littéraire aussi. Elle va au théâtre, au cinéma, beaucoup.
Et on découvre dans l'exposition qu'elle a un gendre sculpteur. Et c'est deux fois intéressant parce que d'abord le tableau qui est en question, le Pinocchio, il faut que vous nous en parliez absolument, et la sculpture qui est devant aussi. Dites-nous, Cécile.
Oui. Alors en fait, son gendre est Ron Muck, je crois.
Que vous avez peut-être vu à la Fondation Cartier, par exemple.
Voilà, qui fait des sculptures hyper réalistes, mais en jouant sur l'échelle. Donc il y a une sorte d'étrangeté puisqu'il peut faire des hommes, des mesurements grands ou des petits, des enfants, mais qui sont déjà d'une échelle trop petite pour être des enfants réels. Et en fait, Ron Muck a commencé ses premières sculptures dans l'atelier de Paola, puisqu'il les a faites pour elle.
Pour elle. C'était une poupée qu'elle devait mettre dans les bras d'un personnage.
Exactement. Donc, elle aime le roman de Pinocchio, puisque ça parle de la question de l'enfance, ça parle de cette difficulté de devenir un enfant et de la condition de l'enfant très très opprimé, et elle va donc peindre ce petit garçon qui a été sculpté par Ron Muck dans deux grands tableaux, un tableau où on voit Geppetto, qui est en fait joué par Ron Muck, donc le sculpteur, qui sculpte lui-même sa sculpture. Donc c'est un tableau très troublant parce qu'on voit le petit cette sculpture très raide, mais en même temps très réaliste, qui est sur ses genoux, et on ne sait pas très bien ce qu'il fait.
C'est assez pervers, parce qu'on a l'impression qu'il va lui donner une fessée.
Il y a beaucoup de fessées, d'ailleurs.
Mais ce n'est pas le Geppetto à moustache rousse qu'on a l'habitude de voir dans les illustrations des livres.
Non, c'est un grand jeune homme dégingandé qui est en fait son gendre, qu'elle a peint dans un portrait. Et puis le pendant, c'est sa fille qui joue la fée bleue, et là qui murmure à l'oreille du petit Pinocchio. Et donc dans l'exposition,
elle est à genoux près de lui. C'est assez curieux cette façon de s'enlacer. Hein, c'est aussi très.
Je le trouve plutôt. Celui-là plutôt assez tendre.
Moi j'aimerais pas rencontrer une fée comme ça, je peux vous dire. Mais.
Elle est un peu osseuse, ouais.
Il y a un côté déposition un peu aussi dans la façon dont elle tient le petit Pinocchio. Quand même.
Vous avez raison, d'ailleurs c'est un thème qui revient assez souvent, la crucifixion, la déposition. Ouais.
Il y a des références religieuses aussi, elle a lu beaucoup d'histoires, mais la Bible aussi. Hein, donc je pense que comme toute bonne portugaise catholique, elle a été vraiment très impressionnée par les histoires horribles de la Bible, qui ne sont pas tellement...
Il y a une crucifixion dans l'exposition ou je me trompe?
Non. C'est pas une crucifixion,
ça ressemble, hein.
Ça ressemble un peu.
On dirait un calvaire.
Non, c'est l'histoire d'une femme folle qui se prenait pour le Christ et qui portait sa croix. Donc ça, c'est un souvenir d'enfance. Donc c'est toujours très très compliqué de savoir quel est le thème d'un tableau chez Paola Rego, parce qu'elle mélange des souvenirs d'enfance où il y a beaucoup de fous, d'idiots du village, avec des anecdotes les plus horribles les unes que les autres, une petite fille va mettre des lames de rasoir dans une pomme pour blesser, et donc
il y a Blanche-Neige qui apparaît aussi, qui tombe d'un lit d'une façon incroyable. La seule chose à laquelle elle pense alors qu'elle meurt, n'est-ce pas,
c'est de
cacher sa culotte. c'est étrange parce que c'est un geste très féminin et en même temps c'est un geste désespéré.
Alors ça, ce que je trouve très intéressant, pardon, c'est que, en fait, ce qu'elle montre, c'est plutôt le modèle jouant Blanche-Neige, qui baisse sa jupe dans un réflexe de pudeur. Et très souvent, elle fait ça. C'est-à-dire que, et ça, c'est une grande liberté chez elle, c'est que, au lieu de soigner la représentation de son motif, qui serait celui de Blanche-Neige ou de Pinocchio, elle représente la scène jouée dans l'atelier. Donc il y a toujours cette sorte de double distance, de degré.
Il y a une double
gêne,
parce que non seulement, par exemple, il y a une autre Blanche-Neige où elle est avec...
C'est sa belle-mère qui lui enlève la culotte.
Qui lui enlève la culotte. Ça, vous pouvez décrire le tableau?
Il y a la petite, enfin Blanche-Neige qui n'est jamais petite, qui est déjà une assez grande jeune femme.
C'est pas du tout la Blanche-Neige.
Il y a par contre la belle-mère, hein, l'affreuse belle-mère qui veut la tuer, qui est comme une espèce de pin-up avec des hauts talons, qui est vraiment l'espèce de star avec une robe moulante en satin, des hauts talons, et c'est elle qui baisse la culotte de sa fille. Donc,
ça qui est très humiliant. Enfin,
c'est très humiliant. Alors, on ne sait pas si c'est pour voir si elle a ses règles, si c'est pour je ne sais pas quoi, parce qu'il y a une telle jalousie, une telle rivalité entre Blanche-Neige et la belle-mère, que c'est de façon un geste un peu étrange. Mais il y a toujours en effet beaucoup d'ambiguïté dans l'interprétation de ces scènes.
Parce que l'histoire est terrible, et la représentation de l'histoire est encore plus terrible. Oui. Donc c'est-à-dire que, et se dire qu'on a dû mimer ça dans l'atelier est aussi gênant. Enfin, c'est des tableaux qui sont gênants.
C'est ce côté sombre dont on parlait. C'est vrai qu'il y a un côté très inquiétant, hein, très, très inquiétant dans certaines œuvres. Et elle a besoin de les peindre. Cette très belle phrase qu'elle a dit, l'art est vraiment une thérapie pour elle, un exorcisme. Ouais. Sinon, elle serait habitée par tous ces fantômes. D'où la violence de ses représentations. Une fois que c'est sorti, elle le dit, hein, c'est une forme d'exorcisme, vraiment.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle fait ça avec très très peu de moyens. C'est-à-dire que elle a ses modèles dans l'atelier qui sont soit des poupées, soit des animaux empaillés, soit quelques proches autour d'elle. Elle a des habits, des accessoires, et elle bâtit un monde, quoi, un monde de fantasmes, avec très très peu de moyens. Et c'est là qu'elle montre quelle est la magie de la peinture. C'est-à-dire qu'il suffit qu'elle soit dans son atelier avec très peu de choses et elle construit, elle refait, je dirais, toute la psychanalyse, si on peut dire, en images.
Il y a une figure qui, dit-elle, qu'elle a découvert représenter son père, c'est l'homme peluchon, l'homme oreiller, je ne sais pas comment vous l'appelez.
Pilomane.
Et ça, c'est très étrange parce que vous pouvez rappeler l'histoire.
Alors, l'histoire, je la connais pas très bien. Elle s'est inspirée d'une pièce de théâtre qui a été jouée à Londres et qui a eu beaucoup de succès, sur un personnage très doux et qu'on appelait donc l'homme oreiller parce qu'il était très doux avec les enfants et si doux qu'à la fin, il les étouffait et les tuait.
Pour les épargner, finalement, cette vie horrible, la vie humaine est horrible, en fait.
Et finalement, c'est un peu le même thème qu'on retrouve dans Peter Pan, c'est-à-dire ces enfants qui ne veulent pas grandir.
Elle a fait des tableaux et des gravures sur Peter Pan, qui sont très beaux.
Oui, c'est vraiment l'idée de ce regard qu'on sent chez elle, très... très attristée sur le monde adulte. On sent quelqu'un de très blessé, en fait. L'enfance étant une sorte d'état d'innocence, enfin, mais aussi de joie, enfin, de bonheur perdu.
Vous vous souvenez de l'histoire de Peter Pan et de cette... qui refuse, qui ne sait pas ce que c'est qu'un baiser, lui, dis-tu.
Oui.
Dit-il.
Alors, elle joue beaucoup là-dessus. Ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'elle va représenter la sorte de d'incompréhension terrible et douloureuse pour Wendy, qui est amoureuse de Peter Pan. Et Peter Pan, qui est un enfant, et donc qui ne comprend pas...
le désir de Wendy.
Qui ne comprend pas ce que sont les baisers, et qui fait souffrir...
Son désir n'a pas accès à lui, Et donc, parce qu'il y a cette scène assez extraordinaire où elle recoue son ombre.
Ça, c'est magnifique.
C'est une scène très, très extraordinaire. Alors, je vous propose d'écouter justement ce qu'elle dit des contes. C'est en 78, écoutons-la.
Les contes traditionnels sont des équivalents de notre enfance. L'enfant, dans sa perspective, le comprend naturellement. Et l'illustrateur ne peut aborder le conte que dans cette même perspective qu'il a retrouvée en lui-même. Pour cela, il doit retourner au monde de l'enfance. Mais il est peut-être possible qu'au lieu d'y retourner, il se serve de l'enfant qui vit toujours en lui pour instruire son monde adulte. C'est ça pour moi, la littérature. Des histoires violentes, magiques,
dans lesquels il y a des punitions, des châtiments, des choses liées à l'éducation des enfants. Paola Rego, 1978.
Vous êtes sur France Culture et nous parlons de la grande artiste portugaise Paola Rego qui a en ce moment cette exposition au musée de l'Orangerie. Et nous sommes avec Marie-Laure Bernadac et Cécile Debray pour évoquer cette très grande artiste dont les œuvres, j'imagine, couvrent déjà les 6 messes du Centre Pompidou, n'est-ce pas Cécile? Ça vous fait rire parce qu'en fait il n'y en a pas encore, hein, c'est ça?
Non. N'a pas encore, bon, mais je suis sûre, oui, qu'un jour il y en aura.
Vous arriverez à convaincre et ça vaut la peine. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une très grande artiste indispensable à une grande collection?
Pourquoi c'est une grande artiste? Alors, parce que ça s'impose. Enfin, je pense qu'il y a une telle force, une telle puissance singulière, encore une fois. C'est-à-dire que vraiment, cet univers n'appartient qu'à elle et je pense qu'on ne peut pas trouver d'équivalent. Qu'il me semble qu'il est évident qu'on reliera son œuvre comme, mais je laisserai Marie-Laure le dire, mais à mon avis, comme on l'a fait pour Louise Bourgeois.
Vous le pensez, Marie-Laure Bernadac?
Je pense, même si c'est un registre très très différent. Il y a quelque chose ici dont on n'a pas parlé qui ajoute à l'importance de cette très grande artiste. Aucune femme, beaucoup de peintres même, n'était allée aussi loin dans la dénonciation des violences faites aux femmes. Elle a parlé de l'excision, de l'avortement, qui était interdit à l'époque, et dans des représentations assez terribles.
Terriblement crues.
Terribles, qu'on ne voit pas évidemment à l'Orangerie, parce que ce n'est pas le sujet, mais ça fait partie aussi de son registre, et de son audace, sa singularité. C'est à la fois les violences faites aux femmes, et à la fois le monde de l'enfance, l'ambiguïté, l'ambivalence du monde de l'enfance. Et il y a en effet cette sincérité. Ce qui fait penser aussi à Louise Bourgeois, c'est tout est sur leur émotion, sur leur vécu, sur leur histoire personnelle. Elles sont toutes les deux en position d'exil aussi, faut le rappeler aussi, parce que je pense que ça joue toujours dans cette paradis perdu de l'enfance, de ce territoire culturel qui est traditionnel, patriarcal, familial, que représente l'enfance, de tous ces souvenirs très forts, qui sont d'autant plus forts quand on n'est plus dans le pays. Et oui, c'est une artiste d'une force extraordinaire. Alors, certes, la peinture est traditionnelle au sens, c'est un réalisme comme on en voit, ce qui a repoussé, à mon avis, beaucoup de gens pendant très longtemps. Mais quand on voit la façon dont elle peint, la force de la peinture, on a parlé de l'excellence de ses pastels, mais de l'iconographie qui est complètement exceptionnelle. Hein. Je pense que quand on voit un tableau de Paola Rego, on est tout de suite pris. Et c'est à la fois une histoire personnelle et les grands mythes archaïques de l'humanité, hein, puisqu'elle parle de la famille, elle parle des mythes, elle parle de toutes les contes et légendes, donc elle a tout cet univers littéraire très ancré dans le 19e, mais avec des références à toute l'histoire de la peinture. Il y a un peintre auquel on n'a pas comparé, mais qui pour moi est très très proche, c'est James Ensor. C'est une sorte de Ensor féminine, avec le carnaval, les masques,
elle doit adorer Ensor. Il y a des personnages légèrement araignées ou des crabes qui vont penser à Ensor, n'est-ce pas,
Cécile
Debray?
Oui, elle aime beaucoup. Je pense qu'elle a une œuvre. La force de son œuvre, c'est aussi qu'elle n'est jamais univoque. Donc il y a toujours cette ambiguïté. On ne va pas la classer comme une artiste féministe. Elle ne l'accepterait pas. Donc là, je dirais que la richesse de son iconographie, mais même dans sa manière de peindre, parce que c'est vrai que le fait que ce soit une peinture figurative, narrative, fait qu'en France, surtout, elle est peut accepter, parce que s'il y a quand même, il y a quand même un, moi c'est un peu mon dada, mais de dire qu'il y a quand même un une pudibonderie blocage vis-à-vis de la peinture en
mais
France.
Mais c'est pas des tableaux faciles à accrocher, hein, chez soi. Je veux dire,
c'est sûr. Hein,
c'est
oui,
il y a des scènes d'une brutalité, mais vous me direz des chez Goya aussi, par contre, oui, on les accroche plus volontiers.
Oui, chez Bacon aussi, ou oui, chez Freud aussi. Bon,
on y arrive, il n'y a pas de doute.
Voilà, je pense que après, une œuvre, elle est vaste. Il y a des registres différents dans sa peinture. Les tableaux de petites filles qui ouvrent l'exposition sont absolument merveilleux. C'est une poétique.
Et les gravures, quoi, sont sublimes.
On évoquait Goya, je trouve qu'il y a beaucoup de scènes comme ça qui font penser à Goya, aussi bien aux caprices, d'une part, parce que dans
qui sont terribles.
Qui sont absolument terribles. Ouais. Et le chien, toujours, je pense.
Le bouc aussi, il y a le bouc.
Le bouc qui prend
la petite fille dans ses bras.
Ça, c'est une scène très étrange. Et dans quel contexte, cela?
Ça, ce sont les nursery rhymes. Donc, elle s'est attaquée à ce monument de la culture anglaise que sont ces comptines de tradition orale, en fait. Hein, et elle a développé toute une série d'images à partir de ces comptines orales. Pour le coup, c'est un axe très anglais, puisqu'en fait, elle a exposé cette série en même temps que les dessins de Hockney sur les contes de Grimes, des frères Grimm. Et donc, elle explore cette veine un peu fantastique, un peu onirique, avec beaucoup, beaucoup de talent.
Marie-Laure Bernadac, vous avez l'impression que son travail, en s'ouvrant à l'installation, ou presque, puisqu'il y a des tableaux ou des installations faites avec des masques, avec des objets, etc., vous avez l'impression que c'est une nouvelle voie qui est en train de commencer dans son œuvre ?
Elle fait ça depuis longtemps, de se servir. C'est assez exceptionnel d'avoir autant de mannequins, parce qu'on connaît des artistes qui font des mannequins, ce Douze Bourgeois, Danette Messager, d'Eva Appli. Comme par hasard, il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé avec ces mannequins poupées, mais ça reste des sculptures. Elles, on les voit jamais, elles ne sont que dans l'atelier. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Vous parliez un peu de théâtre, c'est vrai qu'il y a une forme de pantin qui tout d'un coup se retrouve de scènes qu'elle fabrique et qui se retrouve peinte. C'est vrai que c'est un dispositif assez particulier.
Mais c'est pas des figures comme les utilisait Poussin pour faire ses compositions.
C'est une autre manière, je dirais.
C'est une autre manière, mais il y a un petit peu quelque chose comme ça.
C'est quelque chose. Oui. Il y a quelque chose de magnifique, c'est la femme peintre. La façon dont elle a abordé, en se servant de Courbet et surtout de la nouvelle de Balzac, là, le chef-d'œuvre inconnu de Fraenhofer, qu'elle renverse complètement, tout d'un coup, c'est elle, la femme peintre.
Il y a un tableau, effectivement, qui est sur ce thème-là, qui est très étrange. Vous pouvez nous le décrire?
Il y en a deux, mais il y en a un extraordinaire. Elle peint et la femme se démultiplie. Il y en a un où c'est démultiplication de plein de femmes artistes devant leur tableau. Et il y en a un autre où, évidemment, le modèle est un homme, qui est un ami,
son compagnon,
qu'elle plaque contre la toile, de façon assez violente. Donc, elle veut le rentrer lui-même dans la toile directement. Et puis, évidemment, c'est raté comme dans Fraenhofer. Alors, elle cache ça avec un espèce de rideau vert à moitié. Donc là, alors, c'est aussi un renversement extraordinaire par rapport à Fraenhofer et la nouvelle de Balzac.
Alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas tous la nouvelle de Balzac, Fraenhofer, c'est une histoire très importante dans toute l'histoire de la peinture, puisque ça a été repris par Picasso, qui est à l'origine, donc Poussin et Purbus, donc vont chez Fraenhofer. C'est comme ça que ça commence. Hein. Et donc écoute cet homme absolument merveilleux, qui parle merveilleusement de la peinture et qui supplie de ce qu'on lui prête un modèle, parce qu'il lui manque
le modèle
pour finir ce tableau qui est le chef-d'œuvre de sa vie, sur lequel il a travaillé pendant 10 ans. Ça se termine très mal. Il gribouille son tableau. Il ne reste qu'un pied parfait. Et il met le feu à l'atelier et meurt dans cet incendie. Quelque chose comme ça, quelque chose près. Mais elle a tout inversé, évidemment, pas leur égo. Maintenant, ce sont des femmes.
Voilà.
Alors elle inverse, mais en même temps, elle s'appuie sur cette nouvelle extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle montre aussi, parce que c'est presque comme une sorte de testament de peintre, c'est-à-dire qu'elle montre ce qu'est la peinture et par rapport au modèle, et donc cette manière à la fois d'absorber le réel dans la peinture. Il y a une obsession chez Paola Rego, encore une fois, qui est celle de la représentation, c'est-à-dire que ce qui se passe dans l'atelier n'est là que que pour servir la représentation.
Et ce que vous appelez la représentation, c'est présenter deux fois. Présenter l'histoire une première fois et présenter la peinture en train de se faire avec son modèle une deuxième fois.
Voilà.
C'est pour ça que vous parlez de ce double détente.
C'est peindre
ça,
la représentation.
C'est une espèce de mise en abîme même, parce que les tableaux sont des miroirs, on ne sait pas dans quoi on rentre.
Et donc c'est la dimension, pour moi, c'est un peu la dimension conceptuelle de Paola Rego, comme on peut le dire d'un Velázquez. Il y a vraiment,
si oui, on regarde la peinture, il y a ce système de rebond qu'on a dans les Ménines, où il y a toujours un récit supplémentaire.
Et elle a, ça c'est son côté latin. Vous voyez, c'est ça qui est très riche chez elle, c'est qu'elle a le côté anglais sur la chair, ce rapport au modèle, mais elle a ce souffle baroque de Velázquez, de Ribera, où elle va assumer la représentation de manière baroque, d'où la virtuosité de ses compositions et cette obsession de l'acte de peindre.
Je suis assez content parce que j'ai vu que vous commenciez déjà à avoir un public très nombreux. C'était une exposition d'une artiste qui, objectivement, est inconnue en France. Je crois qu'il y a quasiment...
La première fois qu'elle est
première fois. C'est la première fois qu'il y a une exposition d'un artiste vivant à l'Orangerie ou pas ? Au musée de l'Orangerie ?
Oui.
Hein,
je crois.
Ensemble, hein.
Je crois, oui.
Hein, ou alors vous pouvez considérer que Monet était vivant quand il a installé les Maffeas. Hein, vous pouvez le voir comme ça aussi.
Mais non, puisqu'il est mort un an avant.
Il est mort un an avant ?
Ouais.
Bon.
Ouais.
Alors. Voilà. Et donc, c'est un succès, quoi. C'est-à-dire que vous avez révélé un artiste qui nous était mal connu.
Oui,
le public adhère,
ouais,
non ?
Oui, c'est assez étonnant de voir que le bouche à oreille fonctionne et l'accueil critique a été très bon. Et j'étais ravie aussi que Marie-Laure fasse un texte dans le catalogue, parce que
très
pour
bon
moi,
texte.
C'était très important qu'il y ait un regard, je dirais un regard français sur Paola Rego et surtout de quelqu'un qui a travaillé sur Louise Bourgeois et sur cette splendide exposition sur Présumé innocent qui est vraiment au cœur de
en plein dans le sujet, on s'aperçoit de l'importance du sujet, oui, bien sûr.
Et voilà, si ça peut si ça peut permettre de rétablir la place de Paola Rego, ben j'en serais extrêmement heureuse.
Merci Cécile Debray de nous avoir présenté cette très grande artiste, d'avoir organisé cette belle exposition. Merci infiniment Marie-Laure Bernadac pour vos commentaires et votre texte magnifique.
Merci,
à bientôt.
Jean, merci.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'ai reçu Cécile Debray, la commissaire de l'exposition Paola Rego, et Marie-Laure Bernadac, auteur dans le catalogue, à l'occasion de la très belle exposition Conte cruel Paola Rego au musée de l'Orangerie. Et c'était une émission préparée avec Seam Boutata. Merci Seam. Lecture des textes, Johanna Nizar. Prise de son, Jean-Michel Bernot. Réalisation, Franck Lilin. Bon après-midi sur France Culture.